Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, le désir de français dans le monde. Vous savez que la langue française occupe évidemment parmi nos préoccupations le premier rang, si je puis dire ici même, sous la coupole. Et qu'avec Axel Mauget, c'est toujours très sympathique d'ailleurs de discuter, parce que vous avez une vision positive de la façon dont le français existe et se maintient dans le monde et pas une vision extrêmement pessimiste. Elle est lucide mais positive. Bonjour Axel Mauget.
Bonjour chère Annette Sauty de Chalon.
Merci beaucoup.
Très agréable d'être avec vous aujourd'hui.
Ah bah écoutez, c'est partagé. Alors on est là justement pour cela, parler français, évidemment avec la convivialité que cela requiert. Alors vous publiez aux éditions Vaillant « Le désir de français dans le monde ». C'est préfacé par Jean Cluzel, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Et c'est un ouvrage que l'on peut se procurer. Alors je vais énoncer l'adresse où vous pouvez commander cet ouvrage d'ores et déjà. C'est aux éditions Vaillant, c'est 29 boulevard Wilson, 06600 Antibes. C'est important de le souligner, Axel Mauget, parce que c'est un éditeur qui s'intéresse particulièrement à ces questions qui nous sont chères.
Oui, c'est un éditeur qui est intéressant, que j'ai rencontré un jour grâce à des amis. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'était pour cette dame, parce que c'est une dame, Madame Vaillant, qui est une passionnée de langue française et notamment spécialiste de Cocteau et d'Apollinaire. Alors là, ça m'a beaucoup plu, je dois dire. Comme ce thème de le désir de français dans le monde intéresse énormément de monde, à part une bonne partie de nos élites, c'est assez paradoxal et curieux. Et hier soir, j'étais au Sénat, j'écoutais M. Jean-Pierre Raffarin, qui est maintenant le conseiller personnel pour la francophonie du président Sarkozy, et M. Jean-Pierre Raffarin confirme ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est-à-dire que l'élite française, en général, n'est pas du tout intéressée par la francophonie, mais lorsque sur son blog, il évoque la francophonie, il a aussitôt des dizaines, voire beaucoup plus, de messages qui viennent lui poser des tas de questions, etc. Donc il y a vraiment là une vraie rupture entre une partie, je dis bien, je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit, mais une partie de nos élites et notre population qui est tout à fait friand de français.
Axel Mauget, vous êtes doctoresse lettres, journaliste, conférencier international, vous bougez énormément. Justement, cet état des lieux du français dans le monde, ça permet aussi d'avoir un retour d'expérience qui est votre expérience par rapport au français. Alors, on le disait à l'instant, vous dites qu'il y a un paradoxe entre ce que pensent les élites et la réalité de ce que perçoivent les populations, ce que voudraient les populations. Comment l'explique-t-on dans l'histoire, ce paradoxe ?
Écoutez, je crois que d'abord, il y a peut-être un peu ce phénomène, sans vouloir toujours dénoncer, vous savez, c'est un peu désirable, mais un phénomène un peu de parisianisme. Donc, bon, bah, Paris, c'est vrai que c'est tellement riche, c'est tellement extraordinaire, nous adorons tous Paris, que, bah, à part Paris, il se passe des choses, certes, mais pas tant que ça. Et puis, alors, je crois surtout qu'il y a un vrai problème, c'est ce que j'appellerais un peu le vichisme, c'est-à-dire le désastre moral de 1940. Et je crois que le fait qu'il y ait eu le désastre moral de 1940, ce vichisme, il y a eu, heureusement pour nous, après cette période, le gaullisme, mais avec le gaullisme, il y a eu ce désir de s'américaniser dans le domaine économique. Et donc, une belle
partie. C'est
paradoxal,
parce que le général de Gaulle voulait quand même marquer son indépendance.
Il l'a marqué, mais peut-être pas suffisamment, ou tout au moins ses successeurs. Parce qu'il est quand même parti en 1969. Et parce que la grande période, n'oublions pas, les 30 glorieuses, c'est au fond 50, 75. En fait, c'est 25 ans, c'est pas 30 ans. Mais le général de Gaulle n'a pas pu terminer ce qu'il a voulu faire. Et n'oublions pas que Pompidou, son successeur, est mort assez vite, etc. Après est arrivé Valéry Giscard d'Estaing. Et soyons honnêtes, c'était un peu notre Kennedy français. Et d'ailleurs, le soir des élections, il a remercié en français et en anglais. Preuve d'ouverture, il va sans dire. Mais quand même un peu limitatif. Et donc, une partie de notre élite, pour des raisons que l'on peut très bien comprendre, était fasciné par les États-Unis, qui était assez fascinant d'ailleurs par certains côtés à l'époque, il faut le reconnaître.
Mais ça ne signifie pas, Axel Mauget, on peut être fasciné par quelqu'un sans pour autant, je dirais, se renier soi-même ou être dans une logique d'abandon, de désertion.
Je crois que, si vous voulez, le désastre de 1940 a intégré dans l'esprit de beaucoup de nos dirigeants, une petitesse. C'est-à-dire que nous ne sommes plus une grande civilisation. Ce sont les anglo-saxons qui ont maintenant la balle dans leur camp, qui ont la suprématie. Et je crois qu'ils n'ont pas pu intégrer, ils n'ont pas gardé ces éléments de fierté suffisants et nécessaires au relèvement du pays. C'est-à-dire, en un mot, ils n'ont pas tous suivi de Gaulle.
Autrement dit, la nation, la langue française, tout cela a été confondu dans une sorte de nostalgie et que l'histoire ayant passé, eh bien, on a relégué cela à une histoire qui ne s'écrivait plus.
C'était passé.
C'était passé, tout simplement.
Je crois que c'est vrai ce que vous dites.
Alors, il y a un paradoxe aussi, c'est que le français est quand même langue de la République et que la France a porté les droits de l'homme, les Lumières au monde entier, ou du moins, elle a prétendu le faire, et que cela, logiquement, aurait dû conduire et devrait conduire nos élites à défendre le français de manière vigoureuse.
Eh bien alors là, c'est tout le paradoxe, et c'est peut-être pour ça que notre civilisation continue d'intéresser énormément de monde, et notre civilisation continue d'intéresser une partie de notre élite, une petite partie de notre élite, parce que justement, il y a dans cette grande république qui a été la nôtre et qui est la nôtre, il y a quand même encore des éléments, des valeurs très fortes. Alors, je pense que nous avons une réaction. De Gaulle, parti, Pompidou s'en va très vite, Giscard d'Estaing ne s'intéresse pas énormément à cette question du rayonnement du français, et j'ajouterai que Jacques Chirac, il hésite, si vous voulez, c'est vraiment la valse hésitation. Mitran aura tout de même eu le mérite de créer les sommets francophones, il ne faut pas l'oublier au passage. Bon, nous arrivons à Sarkozy, et phénomène très intéressant, si sous De Gaulle et Pompidou, il y avait le fameux personnage Philippe Rossillon, qui tout de même était un battant, un passionné de la langue française, il a été suivi grâce à Mitran, Mitran a nommé Stelios Farangis. Et après Stelios Farangis, on peut dire, bien sûr, il y a M. Abdou Diouf de l'Organisation internationale de la francophonie, mais il n'y a pas eu de personnage vraiment, si vous voulez, montrant ce désir français de se tourner vers la francophonie et d'exprimer le rayonnement, de continuer à contribuer au rayonnement de la langue française. Or, avec la nomination récente de Jean-Pierre Raffarin, il y a quand même quelque chose de nouveau là, et qui est quand même très intéressant. Et n'oublions pas, je l'ai écouté pas plus tard que hier soir, au Sénat, donc ça m'a intéressé. Et il y a dans ce renouveau français, justement, il désire porter les valeurs de la République. Donc, il y a, je crois, si vous voulez, peut-être, je l'espère, un renouveau possible au sein de notre pays, du discours sur notre langue et sur les valeurs à partager avec le monde francophone. Et j'ai bien noté hier soir quelque chose de très intéressant, c'est qu'il n'y a plus la France en haut, même si elle rayonne, bien entendu, et les autres en bas. Non, 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 pas du tout. Il insiste beaucoup sur certaines réalités comme le respect. C'est vrai que seules les relations peuvent exister dans le respect. La réciprocité, et c'est quand même le deuxième élément que j'ai bien noté hier soir, et troisième élément, le dépassement. Et ça, je trouve ça intéressant.
Alors, comment reliez-vous ces affirmations de principe à la langue française, au rayonnement du français ?
Eh bien, écoutez, je crois que là, c'est une grande question que là vous me posez, et c'est un vaste chantier. Et je pense qu'il serait temps maintenant d'offrir, si vous voulez, d'aller de l'avant. Et il faut qu'il y ait une personne, peut-être Jean-Pierre Raffarin, pourquoi pas, qui vraiment donne une impulsion à ce vaste mouvement en faveur du français. Mais pour cela, il faudrait agir et agir concrètement.
Mais c'est une impulsion qui passe par des politiques publiques ?
Écoutez, l'essentiel, c'est que ça réussisse. Moi, je crois qu'il faudrait plutôt un système mixte, c'est-à-dire politique publique et politique privée, c'est-à-dire en s'appuyant sur un système, moi je crois beaucoup à ce système, système de fondation. Et je crois que la francophonie, le français, la langue française continuera à gagner des cœurs, si vous voulez, et à être partagée avec vraiment des appuis majeurs, non seulement il faut qu'il y ait une impulsion politique, mais surtout du côté privé où de vrais militants créent des fondations et se retroussent les manches.
La piste des fondations, Axel Mauger.
Moi je pense.
Alors on a vu de manière certes relativement succincte, mais ça permet quand même d'avoir des idées tout à fait claires. L'histoire, ce que vous avez expliqué, l'histoire, ce qui pèse sur la conscience nationale et qui s'est fait au détriment du rayonnement du français. Là, vous nous parlez de l'avenir des fondations et peut-être d'une amorce de renouveau avec Jean-Pierre Raffarin. Est-ce qu'on peut voir le désir de français dans le monde exprimé par ceux qui habitent loin, qui vivent loin de chez nous, qui aiment le français, que vous côtoyez parce que vous voyagez beaucoup? Comment s'exprime ce désir?
Eh bien écoutez, c'est quelque chose de très émouvant. Parce que je pense que s'il n'y avait pas la francophonie, la France serait probablement différente aujourd'hui. Je veux dire, il n'y aurait peut-être pas ce sursaut que nous attendons tous, que nous espérons. Et ce que je constate dans tous mes voyages, c'est cet amour de la France, des valeurs de la République, voire même de la monarchie, si vous voulez, etc. Faut pas oublier quand même le personnage de Louis XVI qui a été tellement mis de côté, qui était un personnage finalement beaucoup plus humain qu'on a bien voulu dire. Et il y a un peu partout dans le monde un véritable amour de la langue française et de notre pays. Si vous voulez, dans n'importe quel pays, il manque, hélas, de l'argent, si vous voulez, des fonds pour créer des institutions. Mais dès que, dans un pays, on ouvre un lycée, on ouvre un institut, une alliance française, aussitôt elle est remplie. Dans la plupart des cas, elle est remplie. Et donc, le lycée, une fois ouvert, les étudiants étant au rendez-vous, on en ouvrirait un deuxième. Je pense qu'il y aurait de nouveau d'autres étudiants et les gens seraient au rendez-vous.
Quels que soient les lieux que vous fréquentez ?
La plupart. Je dirais...
Par exemple ?
Par exemple, l'Espagne, l'Italie, le Canada, les États-Unis, la Pologne, la Russie, si vous voulez. J'ajouterai encore l'Autriche et le Maroc, l'Algérie. Vous voyez, donc c'est très rapide, c'est pas vraiment pensé. L'Égypte, bien entendu, etc. Ne parlons même pas de l'Asie, la Corée, le Japon, la Chine, bien entendu. La Chine, nous sommes passés en l'espace de 12 ans de à peu près d'étudiants de niveau universitaire de, je dirais, 6-7 000 étudiants à aujourd'hui certainement 100 000. Alors que nous revenions de très très loin. En Inde,
et que Lionel Jospin avait plaidé pour l'anglais à Shanghai.
Alors ça, je crois que Jean-Pierre Raffarin, suivant en cela l'exemple agréable de Jacques Chirac, a dit que à partir de maintenant, il fallait devenir des francophones intransigeants. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans des forums internationaux, les Français doivent défendre leur langue et surtout l'exprimer. Et ça, je crois que c'est le grand problème. Ce qui est vraiment triste depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est que beaucoup de nos responsables, de nos dirigeants, n'utilisent pas assez la langue française. La question que je me pose, cher Adé Sauty de Chalon, la connaissent-ils suffisamment pour certains d'entre eux ? Je dis bien pour certains d'entre eux, pas tous.
C'est tout le travail, justement, Axel Mouget. Je cite Gabriel Debreuil, dont vous retranscrivez les propos. « Le pouvoir conservé du français dans le monde irrite plus d'un allophone et constitue un atout économique largement inexploité. » Autrement dit, on a là un vivier énorme que l'on sous-estime. Et grâce à des personnes comme vous, on peut quand même arriver à cerner l'importance de ce désir du français.
Je pense, si vous voulez, que je verrai quelques pistes. Nous avons perdu 30 ans dans ce partage du français, dans cet interrelationnel entre nous et les francophones et les autres pays du monde. Je veux dire, on parle le français, mais il faut parler l'espagnol, il faut parler l'anglais, il faut parler des tas d'autres langues. Mais nous avons perdu 30 ans. 30 ans qui, dans le domaine économique, nous pénalisent terriblement. D'abord, manque de chaires francophones dans les grandes universités françaises. Bon, est-ce que celle d'Abu Dhabi marche bien en ce moment ? Et si oui, pourquoi ? Et si elle a des difficultés, quelles sont-elles ? Bon, c'est une question que je pose, auquel il faudrait que certains responsables répondent. Mais la question, c'est que s'il y a 30 ans, nous avions eu très rapidement des échanges ultra fructueux avec des francophiles du monde entier. Ces fondations existeraient partout. Donc nous avons perdu un temps fou et cet argent aurait permis un développement extraordinaire.
Vous dites que la francophonie nous a enlisés et n'a pas été très efficace, hein, c'est ça, en quelque sorte. Les institutions officielles.
C'est pas ce que j'ai dit, mais vous me le faites dire, mais je le reprends à mon compte. Je pense qu'en effet, les institutions officielles ont été très dispersées, dispersantes, et il y a eu des gens intéressants, mais que reste-t-il vraiment de tous ces classiques, si vous voulez, si j'ose dire. Par contre, je trouve qu'un personnage comme Abdou Diouf est un personnage parmi les plus intéressants dans le domaine de la francophonie. Mais je trouve que ces institutions de la francophonie n'ont pas donné ce qu'elles devraient, ce qu'elles auraient pu apporter.
Il existe, Axel Mouget, on sait que les Anglais sont également très soucieux de la préservation de leur langue et il existe une synergie, c'est un mot à la mode dans le monde de l'entreprise en particulier, entre les affaires étrangères et l'extension linguistique. Ils suivent cela de très près, alors que nous, nous dissocions tout à fait les deux domaines, en fait, entre la francophonie et les affaires étrangères, non ?
Hélas, nous n'avons pas toujours pris le meilleur du monde latin ou du monde grec. Nous sommes un peu comme les Horace et les Curias, et nous vivons en ordre dispersé. Et c'est le problème de la France, si vous voulez, nous n'avons pas ce sens civique. Pourquoi les anglo-saxons ont des qualités majeures ? C'est qu'ils ont un sens civique extraordinaire, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, et nous n'avons pas hérité, nous sommes différents, nous sommes des Gaulois, si l'on veut, d'une certaine façon, pas tous, je ne parle pas des francophones, bien sûr, mais il y a cet esprit gaulois. Je crois que nous aurions intérêt à aller dans le même sens. Il faut, pour que la relation France-francophonie marche au maximum, il faut vraiment aller maintenant dans le même sens en pensant à l'esprit de Saint-Exupéry ou en pensant aussi à ce grand philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Albert Camus et qui est un homme vraiment tourné vers la justice. Or, la francophonie pour moi, le français pour moi, la francophonie pour moi, c'est le sens de la justice.
Je vous cite Axel Mouget, page 131. L'avenir de l'Union européenne en 2010, c'est un document britannique. Ce document prédit le triomphe absolu de la langue anglaise au sein des institutions européennes après la capitulation rase campagne de la France qui est prévue autour de 2005. Français et francophones, nous ne pourrons pas dire plus tard que nous ne savions pas. Donc déjà, avant de penser peut-être aux Français dans le monde, est-ce qu'il ne faut pas songer déjà aux Français en Europe, Axel Mouget ?
La question du français, elle se pose d'abord en Europe. Je pense, si vous voulez, que vous m'avez cité tout à fait, mais c'est un peu hors contexte, en ce sens que c'est dans l'ensemble du livre.
Bien sûr.
N'oublions pas qu'il y a eu tout de même les événements de 2001, graves pour le monde anglo-américain, c'est-à-dire c'est terribles attentats. Et le monde anglo-saxon a quand même subi...
Un ébranlement.
Un ébranlement, exactement. Et n'oublions pas ensuite quand même l'ébranlement économique financier de 2008, où l'économie à l'anglo-saxonne a un peu vécu quand même. Bon,
oui, mais n'empêche, c'est l'anglais qui s'impose en Europe, ça vous ne pouvez pas le nier.
C'est tout à fait vrai, parce que nous laissons faire... Il y a tout de même des réactions de part et d'autre, à la fois dans notre pays, Raffarin en est un, d'autres membres de l'Europe, comme mettons la Pologne ou autres, ils veulent davantage de français, mais les Anglais utilisent tous les moyens possibles et imaginables. Évidemment, attention, on ne peut pas non plus faire de l'anti-anglais. Beaucoup de gens vont vous dire la langue anglaise, c'est la langue...
Lingua franca.
Lingua franca, le latin d'aujourd'hui. J'accepte. Mais alors, à ce moment-là, il faut absolument offrir des barrages, c'est-à-dire que la langue anglaise est une langue, disons, numéro un. Bon, nous l'acceptons, pourquoi pas? Bon, numéro un, dans le sens de la communication. Deuxièmement, il faut qu'il y ait par contre des citadelles imprenables du français, c'est-à-dire où, de temps à autre, de façon fréquente, le français soit totalement, complètement utilisé, comme l'allemand doit l'être, comme d'autres langues.
Mais quelles sont ces citadelles, Axel Mauger?
Ces citadelles, c'est-à-dire qu'au sein des commissions, lorsque vous avez un commissaire, notamment français, il devrait imposer le plus souvent possible la langue française, ce qui se fait d'ailleurs de temps à autre, on l'oublie. Je dirais que le français n'est pas en déroute dans l'Union européenne, je pense que les responsables français de l'Union européenne ne savent pas comment réagir face à cette montée enveloppante de l'anglais. Mais il suffit d'avoir des règles fermes, de les défendre, d'appliquer les directives du gouvernement quand elles sont bonnes pour le français, etc. Il faut donc les appliquer. Et je crois que le français, assez rapidement, devrait reprendre du poil à la bête. Mais nous avons contre nous, je pense, une partie des journalistes.
Ah, les médias, vous les mettez
et
dedans.
Et je pense que une partie des médias, je n'ai pas dit tous les médias, hein, mais une partie des médias n'est pas très favorable aux Français. Je veux dire par là que dès que vous parlez de français ou de francophonie, sauf à France 24, sauf à TV5, Monde, etc., etc., mais dans une partie des médias, ça fait ringard. Mais moi, je ne défends pas la langue française. Je veux l'illustrer. C'est la grande différence entre eux et moi. S'ils veulent continuer à être bercés par des comptines, bon, un peu d'hier, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le français de demain, c'est le français d'aujourd'hui, c'est le français que nous partageons avec nos amis de la francophonie en les accueillant. Donc, c'est ça qui vraiment m'intéresse. Alors, je suis vraiment surpris de voir que les médias, mais pour quelle raison, les journalistes ne s'intéressent pas à cela, alors que, je le répète, Jean-Pierre Raffarin va dans ce sens, la population, une bonne partie de la population française est vraiment friande de notre langue. D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes friands de notre langue au jour le jour, je veux dire. Pourquoi cette espèce? C'est parce que, si vous voulez, c'est le côté, c'est pas sensationnel, c'est pas les magazines People. Quand on parle de langue, ça demande réflexion, ça demande concentration, ça demande... Mais regardez tout de même, un personnage comme Eric Orsena plaît beaucoup.
C'est vrai.
Donc, on peut plaire avec la langue.
Il y a, Axel Mauger, peut-être des séquelles idéologiques d'une certaine vision un peu bourdieusienne, issue de ce que disait Roland Barthes, l'orthographe, c'est du fascisme. C'est-à-dire que la langue française est perçue comme un élément qui distingue une culture élitiste. Donc, pas un élément fédérateur, mais au contraire, un élément de ségrégation sociale.
Alors
que c'est une erreur d'appréciation. C'est très bien que c'est une erreur.
C'est vrai ce que vous dites.
Mais c'est sans doute pour expliquer l'attitude journalistique.
Je pense que c'est très vrai. Et c'est une erreur parce que lorsque vous avez tout de même... Prenons les écrits, bon, sans me fixer là-dessus, du Général de Gaulle, il y a quand même une clarté de vision 10-15 ans avant les événements, voire plus, qui est quand même étonnante. Donc, quand votre français est clair, quand votre expression est nette, on voit bien qu'il y a une structure, une cohérence, une phonie, etc., etc. Le contraire, c'est du laxisme même pas amélioré.
Oui, puis toute la force du français, c'est évidemment d'unir des peuples qui ont des statuts différents, des niveaux de vie différents, qui peuvent se retrouver sur une langue, que ce soit d'Haïti, au Liban, au Québec, où vous allez souvent, ou en France, c'est une troisième voie dans un monde uniformisé.
Je crois que oui.
Et c'est cela aussi la raison pour laquelle vous le développez, la raison aussi pour laquelle on désire le français.
Oui, et puis ne l'oublions pas, ce n'est pas en appauvrissant les riches que l'on va nourrir les pauvres, et c'est donc la même chose dans le domaine de la langue, ce n'est pas en appauvrissant la langue en la réduisant à une extrémité, ça a été le cas du joual au Québec, et je me souviens de Gaston Miron, cette fameuse formule magnifique, Gaston Miron, le grand poète du Québec, comme Aimé Césaire l'est pour la Martinique ou Senghor pour le Sénégal, et Gaston Miron disait, pendant le moment où on se pose la question, s'il faut dire cheval, ou joul, c'est le mot horse qui passe. Il avait tout compris.
Les Français divisés contre eux-mêmes.
Voilà, tout à fait.
Alors vous répondez bien sûr à toutes ces questions dans cet ouvrage Le désir de français dans le monde. Est-ce que l'on peut peut-être, Axel Mauger, dire, parce que vous avez une vision résolument optimiste, c'est-à-dire vous ne tenez pas le discours de ceux qui pensent que le français c'est fini, c'est la débâcle. Il y a cet optimisme que vous devez nous faire partager, Axel Mauger. Quand vous avez en face de vous une assistance, vous nous disiez tout à l'heure les centres culturels français, les alliances françaises qui ouvrent, qui sont pleins, cela porte à l'optimisme quand même. Mais ça, il faut le dire.
Je crois, si vous voulez, que nous avons dans le monde entier un accueil qui est souvent formidable.
Et méconnu.
Et méconnu parce que nous manquons un peu de moyens financiers. Et je crois qu'il y a un drame, s'il y a un côté négatif de la francophonie, c'est que ce manque de finances pour le monde culturel. Or, vous apercevez, lorsque vous donnez une conférence sur Maurice Druon, vous accueillez 200 personnes. Quand vous donnez une conférence sur Albert Camus, vous accueillez 300 personnes. Enfin, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a une demande de Français dans le monde qui est fabuleuse, qui est énorme. Mais attention, si vous ne donnez pas quelques moyens, si vous fermez quelques instituts, si...
C'est le cas, il y en a beaucoup qui ont fermé.
Il y a eu des fermetures. Parfois, d'ailleurs, nécessaires, parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de monde dans telle ou telle ville. Mais croyez-moi, si nous pouvions développer ce système de fondation en accord avec la France et différents pays, vous auriez des ouvertures dans bien des endroits et une demande. Par contre, attention, nous rejoignons un peu cette importante question du français. Qu'est-ce que nous allons donner et offrir aux gens ?
Le français, pourquoi faire ?
Le français, pourquoi faire ?
Et vous avez une réponse ?
Oui, moi je crois que si nous resserrons, par exemple, ce que nous offrons, c'est-à-dire dans le domaine, par exemple, des grandes conférences sur des auteurs, vous parliez de Roland Barthes, il y a des personnages extraordinaires de notre monde du XXe siècle, sans parler même des siècles d'avant, sur la créativité des Français. Regardez quand même ce qui marche. La France, ce n'est pas seulement la culture, c'est tout à fait le domaine économique. Sur les 500 plus grandes entreprises mondiales, il y en a 40 françaises.
Alors ça, c'est un aspect très important parce qu'il est très souvent sous-estimé par la plupart de nos contemporains qui ne connaissent la France qu'à travers le luxe en particulier ou la culture.
Voilà.
Donc on devrait développer l'axe économique, c'est ce que vous dites.
Ah ben, moi, je pense, si vous voulez, que nous sommes des nains du point de vue, je suis parfois un peu direct, des nains du point de vue économique. C'est-à-dire que nous ne parlons pas de l'économie qui est la nôtre et qui est tout à fait intéressante, qui est importante. Et nous disions 40 entreprises les plus importantes parmi les 500 mondiales. Nous sommes aussi parmi les 28 plus importantes en Europe même. Donc, si vous prenez les 100 premières entreprises européennes, 28 ou 30, je crois même si ce n'est pas 30, mettons 28, allez, arrêtons-nous à 28. 28 sont françaises.
Près d'un tiers.
Près d'un tiers, c'est quand même pas rien. Je veux dire, nous sommes quand même 27 pays en Europe maintenant et c'est loin d'être négligeable. Donc, je crois que nous sommes un peu des nains parce que nous n'arrivons pas à faire le lien entre l'économie et la culture. Et c'est là, alors que nous devrions, je veux dire que Total, on parle de Total, ben Total devrait, demain matin, créer un fonds pour le français et la francophonie. Et mon Dieu, il ferait des miracles.
Il y a une fondation Total.
Il y a une fondation Total, s'intéresse-t-elle aux français et aux francophones ? Je ne crois pas.
C'est une idée qui concerne quantité de grandes entreprises. Ça suppose, Axel Mauget, là vous mettez le doigt quand même sur un fonctionnement à la française qui est un peu délicat, qu'on fonctionne en partenariat public-privé ou en tout cas qu'on laisse au privé beaucoup plus de marge de manœuvre.
Ça, c'est une grande question.
Culturellement, c'est... n'est pas simple.
Non, c'est pas simple. Vous avez tout à fait raison. C'est très compliqué, c'est complexe et nous faisons toujours du compliqué dans notre cher pays. Encore qu'il y a eu, avec l'arrivée du nouveau président, notamment ce qu'on appelle le statut de auto-entrepreneur, quelque chose d'intéressant, de tout à fait intéressant, qui n'existait pas jusque-là. Et quand on pense, écoutez, entre vous et moi, alors que nous avons de graves problèmes actuellement, quand on pense qu'on revient sur cette question des 35 heures ou des problèmes d'âge de la retraite, je veux dire, il y a de faux problèmes que nous soulevons de façon permanente alors que nous perdons du temps. Si vous voulez, pourquoi il y a eu 1940, je reviens à la charge, parce que pendant 15 ans, c'est-à-dire de 1925 à 1940, il y a des gens qui n'étaient pas compétents, qui étaient au pouvoir, eh bien, on peut se poser la même question, et pour nos jeunes, parce que c'est très important pour nos jeunes, est-ce que de 1985 à 2000 et quelques, il n'y a pas eu des gens incompétents dans certains domaines ? Et là, si vous voulez, moi, je n'ai pas peur d'appeler un chacha. Alors, je ne vais pas viser telle ou telle personne en particulier, mais je crois qu'il y a des décisions qu'il fallait prendre que nous n'avons pas prises.
Alors, lesquelles, par exemple, très concrètement, en 85 ?
Très concrètement, les chaires de la francophonie dans les universités françaises. Il fallait créer, dans les années 80, 20 chaires de la francophonie. Nous aurions accueilli 3000, 4000 étudiants du plus haut niveau du monde de la francophonie. Et aujourd'hui, nous aurions un vivier de 10 000 personnes, voire plus, et un rayonnement beaucoup plus fort dans l'ensemble de la francophonie.
Axel Mauget, dernier point, il y a à peu près 200 millions de locuteurs français dans le monde.
Plus que ça.
Plus que ça.
Vous avez 120 millions première langue, vous avez 150 millions deuxième et troisième langue, et vous avez à peu près, en plus de cela, aujourd'hui 100 millions de jeunes et de moins jeunes qui apprennent le français.
Pour vous, la courbe, elle monte ?
Tout à fait. Les chiffres...
C'est indéniable, ça.
C'est tout à fait indéniable. Elle monte peut-être moins vite que la courbe anglo-saxonne, mais parce qu'ils sont plus nombreux que nous d'abord. Le monde anglo-saxon, c'est 1 milliard de personnes. Nous ne sommes qu'à 350 millions. Nos divisions, c'est 1/3 du monde anglo-saxon. Donc ça explique le manque de rayonnement parfois, etc. Mais je suis très optimiste, nous pourrions, si nous avions une équipe de gens comme vous, comme d'autres qui nous entourent, dynamiques, qui allions de l'avant avec un minimum de crédit, pas des sommes très importantes, on en a dépensé beaucoup trop pour rien, nous pourrions aller de l'avant de façon extraordinaire.
Les pays où le français monte, les pays où il régresse, est-ce qu'en Afrique ça monte ou ça descend ? En Asie, que diriez-vous ?
Là, c'est un petit peu difficile parce qu'il faudrait que je reprenne tous mes chiffres. Grosso modo, en Asie, ça a plutôt tendance à monter, mais nous partons d'assez loin. Mais ça a tendance à monter, mais nous ne faisons pas énormément de choses, sauf ceux qui sont sur le terrain, bien entendu, pour que ça monte beaucoup plus. En Afrique, ça se maintient très bien. Le problème, c'est la question des moyens financiers pour encourager les plus jeunes à apprendre le français et d'autres langues. Alors en Europe, vous aviez raison tout à l'heure de revenir sur l'Europe, c'est l'heure de vérité. Là en Europe, si nous n'agissons pas dans les 3, 4, 5 ans qui viennent de façon vraiment positive, vous voyez que Raffarin, quand même pour la première fois depuis Stelios Farangis et depuis Rossillon, un monsieur se lève, et c'est quand même pas n'importe qui que l'ancien Premier ministre M. Raffarin, pour dire qu'en Europe, il faut vraiment réagir, on n'a pas le droit de s'aplatir, nous avons tous droit à notre langue, les Polonais ont droit à leur langue, les Russes ont droit à leur langue, les Russes ne font pas partie de l'Europe telle que nous la connaissons actuellement, même s'ils sont européens pour une bonne partie, nous-mêmes Français, nous avons tous droit à l'air. Et n'oublions pas, ce combat pour le français, c'est pas du tout un combat de retardataire, c'est un combat, moi je le situe comme ça, pour le plurilinguisme. Nous ne demandons pas, je ne demande pas le français comme langue de l'Europe, certains le demandent, osent le demander, pas du tout. Moi je suis pour un partage qui permet un partage, l'anglais, l'allemand, le français, qui sont quand même trois langues importantes évidemment, comme les autres sont aussi des langues importantes, mais qui permettent aux autres, elles aussi, de rayonner. S'il n'y a plus que l'anglais, le français sera plus là, l'allemand sera plus là, donc les autres ne seront plus là. Alors si nous arrivons à cette espèce de triarchie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de trinité, les autres langues bénéficieront de ce dynamisme, si vous voulez, de ce bus. Si vous n'utilisez pas votre bus, eh bien, il s'atrophie.
Tous derrière l'oriflamme française, en quelque sorte, puisque c'est une façon de défendre les intérêts de tout le monde. C'est comme ça que la France est souvent présentée d'ailleurs, hein, comme étant justement le pays qui va incarner la diversité. C'est une forme de biodiversité linguistique que vous réclamez.
C'est vraiment ce que je réclame. Et n'oublions pas que lorsque je termine un cours, la plupart du temps, je remercie, lorsque j'ai affaire à des étudiants étrangers, que ce soit à la Sorbonne ou ailleurs, je termine mon cours en remerciant en 10 langues. Je dis merci en 10 langues, etc. Et mes étudiants sont extrêmement touchés de ce petit hommage que je rends à leur pays. Et il m'arrive parfois que des étudiants venus de pays bien lointains viennent me dire « vous ne m'avez pas remercié dans ma langue ». Et je leur dis « excusez-moi, mais je ne sais pas comment on dit merci dans votre langue » et je m'arrange. Et ça, c'est quelque chose qui touche. Si vous voulez, je pense que dans le français, n'oublions pas ce que je dis à la fin de ce livre, le mot de Lucchini. Et c'est Fabrice Lucchini qui est un personnage étonnant dans le domaine de la langue française. « Être français, dit-il, c'est mettre des mots intelligents sur nos sentiments ». Et lorsque il a présenté son spectacle sur, je sais plus, je crois que c'était sur La Fontaine, si je ne m'abuse, devant le Premier ministre du Québec, eh bien, le Premier ministre du Québec est venu remercier Fabrice Lucchini en disant « Savez-vous qu'il nous a fallu résister pendant 4 siècles pour venir écouter votre discours ?» Et là, Fabrice Lucchini, qui est quand même un homme qui a de la réaction, est resté abasourdi en se disant « Comment ils ont résisté pendant 4 siècles ?» Eh bien, moi, je crois que la situation du français aujourd'hui, c'est une situation de résistance, c'est une situation, je dirais, gaulliste, et je pense que, non pas d'imposer sa langue aux autres, mais de partager notre langue avec les autres pour que toutes les langues, ou le maximum de langues, puissent exprimer le maximum de vie. Tel est mon message, car j'aime l'anglais. Comme Maurice Druon, j'aime l'anglais. J'aime beaucoup aussi l'espagnol. Ce sont les deux autres langues que je pratique le mieux possible, si vous voulez, sans que ça soit parfait, bien entendu. J'aimerais parler d'autres langues. Et je crois que l'hommage que nous avons, et vous le disiez très bien, l'hommage que nous avons, c'est l'hommage à la diversité, à la biolangue diversité, si j'ose dire. Nous devons nous tourner les uns vers les autres. Et je suis surpris d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a l'air de regretter que certains de nos jeunes aient beaucoup de mal à parler une autre langue. Je ne suis quand même pas né d'hier. Nous parlions quand même en plus de la nôtre, en plus du français, au moins 2 autres langues. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui...
Oui, l'un va avec l'autre. Voilà. Mieux je parle français, plus je suis porté à parler les autres langues.
Tout à fait. Mais avec les méthodes d'enseignement qui auraient dû améliorer les choses, ça n'a pas toujours peut-être été le cas, mais voilà.
Axel Mauget, on se dit au revoir. C'est très sympathique de nous avoir parlé de votre ouvrage. Vous pouvez nous dire merci en plusieurs langues, là, comme vous le faites.
Shukran, thank you very much, muchas gracias, et voilà.
Et après, vous adaptez à chacun de vos publics.
Et je m'adapte tout à fait à chacun de mes publics.
Merveilleux.
Spasiba.
En russe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le désir de français dans le monde, c'est préfacé par Jean Cluzel de l'Institut. C'est aux éditions Vaillant, dont je rappelle l'adresse si vous voulez commander cet ouvrage, tout à fait enrichissant sur la francophonie, un ouvrage de référence. 29 Boulevard Wilson, c'est 06 600 Antibes, 29 Boulevard Wilson, 06 600 Antibes. On peut donner aussi, bien sûr, une adresse mail, un courriel, comme on dit en français, contact au singulier, @, édition Vaillant, édition au pluriel, vaillant comme cœur vaillant.com.